Très belle matinée à tous, mercredi matin, Samia avec vous les amis, ça pétille l'émission, c'est votre matinale sur votre radio de la journée, c'est du lundi au vendredi entre 6h et 10h tous les matins, me rejoignent à la table du 22 rue Richard Cœur de Lyon, les forces vives de la région. Ce matin c'est Tilda pour une nouvelle bulle de parents, bonjour Tilda.
Bonjour.
Tu vas bien?
Ça va, super.
Je rappelle aux parents de la région et à tous nos auditeurs que tu es formatrice en approche Gordon qui favorise la communication, voilà, entre les parents et les enfants. Tiens, de communication, il en est vraiment question là. Des fois, il y a des communications qui sont muettes, entre guillemets, où il vaut mieux rien dire et plutôt laisser venir et ensuite réfléchir à comment on va faire. Par exemple, quand on s'aperçoit que son enfant ne va pas bien.
Ouais, exactement. Quand on sent que là, il y a un truc qui cloche, ce qu'on a peut-être tendance à faire, c'est dire mais qu'est-ce qu'il y a, ça va pas, qu'est-ce qui t'arrive, ou tu fais la tête, ou les enfants quand ils sont petits, ils ont des façons d'exprimer leur mal-être aussi différents, donc ils vont se mettre à crier, donc on va leur dire arrête de crier, ou arrête d'embêter ta sœur, ça aussi c'est quelque chose qui arrive souvent. Et le problème qu'il y a avec les enfants, et même avec les adultes finalement, c'est qu'on n'exprime pas toujours simplement quand on a un problème. Certains ne disent plus rien, se murent dans le silence. En fait, c'est difficile pour la plupart des gens de dire « Oh là, là, j'ai eu une journée difficile, je me suis sentie agressée par mon patron toute la journée. Du coup, là, ce soir, je me sens fatiguée psychologiquement et j'ai besoin d'être au calme pendant un moment. » Voilà. Si tout le monde avait la capacité de s'exprimer comme ça, bon, ça enlèverait beaucoup de problèmes. Seulement, c'est pas ce qui se passe parce que bien souvent, les enfants, ils ont d'autres façons d'exprimer leur mal-être. Voilà. Ça peut être sauter sur le canapé, crier, embêter sa sœur, s'enfermer dans sa chambre ou faire la tête pendant qu'on mange. En fait, voilà, c'est chacun a sa façon de faire.
Se replier sur soi-même à l'heure où le harcèlement scolaire pose vraiment, vraiment question en France, on a quand même eu de sacrés gros problèmes ces derniers temps. Il y a des enfants qui en sont arrivés à des actes où il y a plus de marche arrière possible. C'est vrai que cette bulle de parents, elle va peut-être pouvoir aussi mettre nos auditeurs sur la piste. Alors voilà, des fois on a un enfant de 5-6 ans qui, comme tu le disais, va sauter sur le fauteuil, faire un peu n'importe quoi, être dissipé, et ça peut être aussi une façon pour lui d'exprimer un mal-être, mais t'as aussi des enfants, voire même des ados, qui vont se murer dans le silence.
Ouais, c'est ça. Et donc là, une des premières choses, une des premières pistes justement, c'est de faire ce travail peut-être tranquille, tout seul, au calme. De lister pour son enfant ou ses enfants, si on en a plusieurs, quels sont les signes qui signifie pour nous que l'enfant a un problème. Dans l'approche Gordon, c'est ce qu'on fait beaucoup en formation. Et c'est vraiment hyper aidant parce que un enfant qui va embêter sa sœur, par exemple, on sort de ce truc de « arrête d'embêter ta sœur ». On va se positionner plutôt « ouh, là, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas ». Et du coup, forcément, la posture du parent, elle est complètement différente quand on part de ce postulat-là.
Voilà. Quand on voit qu'il y a un comportement qui n'est pas habituel, c'est ça que
ouais,
tu veux nous dire?
Ouais, c'est ça.
Parce qu'il y a des gosses, ils embêtent toujours leur sœur, hein,
ouais.
Hein, et ça va très bien.
Mais en vrai, moi, ce que je me dis souvent, c'est quand ça se passe super bien. Ça se passe super bien, pourquoi? Parce que tout le monde est bien, tout le monde est à sa place. Il n'y a pas de colère, voilà. Enfin, chaque personne, en fait, se sent bien. Et quand chaque personne se sent bien, ça se passe bien. Donc, si ça ne se passe pas bien, c'est qu'il y en a une dans le lot qui ne se sent pas bien. Voilà, alors là, la cause, elle peut être liée à, effectivement, ma sœur a dit quelque chose qui m'a vexée. Voilà, peu importe, mais en tout cas, voilà, c'est lié
là,
forcément à elle.
Là, tu l'identifies tout de suite, quoi.
Ouais, c'est ça. Mais faire ce travail, par exemple, moi, un de mes enfants, je ne dis pas lequel pour rester dans le secret, les pauvres, je ne veux pas balancer sur
eux. En tout cas, c'est un de tes enfants, on le sait maintenant.
Un des trois.
Ouais.
petit, en fait, voilà, le comportement vraiment qui signifie que ça n'allait pas, c'est qu'il se mettait à sauter sur le canapé.
D'accord, ok.
Voilà, et sauter sur le canapé, et comme ça avait l'air de rien, et en vrai, si moi j'étais bien, ça me posait pas de problème. Si j'étais pas bien, un peu fatiguée, ça m'agaçait. Et j'ai compris après qu'effectivement, quand ça commençait comme ça, il y avait toujours quelque chose après qui partait en crise. Et c'est parce qu'en fait, ça, c'était le signe qu'il y avait un énervement, un agacement, et il l'exprimait de cette façon-là. Donc ça, lister tous les comportements qui sont non-verbal, en fait, qui signifie que l'enfant a un problème. C'est hyper intéressant pour avoir le réflexe de se dire « Ouh là, ça va pas ». Parce qu'on va réagir forcément différemment.
De se mettre des petits signaux d'alerte, quoi.
Ouais, il faut le voir, là, l'enfant qui saute sur le canapé, si je sais que c'est parce qu'il va pas bien, je vais forcément aller dire, oula, toi, je sens que ça va pas et tout, tu veux parler ou tu veux un câlin, etc. Tandis que si je percute pas que c'est parce qu'il a un problème, je dis, t'arrêtes de sauter sur le canapé. Mmh. Voilà, donc l'approche, elle est pas du tout la même. La deuxième piste, en fait, c'est prendre conscience que son problème lui appartient à lui. Ça, c'est pas facile quand on est parent, mais c'est tellement un soulagement et ça devient la parentalité devient des vacances. J'exagère un peu, mais en vrai, si on va au bout de le problème ne m'appartient pas, c'est-à-dire que si mon enfant s'est disputé avec son meilleur pote, je prends souvent cet exemple parce qu'à l'école, c'est un peu le quotidien des enfants. S'il s'est disputé avec son meilleur copain et que le soir, ça le rend de mauvaise humeur, le problème n'est pas le mien, en fait. Mmh. Voilà. Donc, je ne me désengage pas de ça. Je suis là pour lui. Je suis un pilier. Je suis un soutien. Je suis une oreille attentive. Mais par contre, en fait, c'est pas mon problème. Donc, en fait, le fait de se charger les épaules des problèmes des enfants, c'est pas
c'est
bon.
C'est dur de le faire, ça, hein, par contre. Hein.
Ouais.
Mais de se dire que le problème de son enfant n'est pas mon problème.
Oui. Mmh. Oui, oui, oui. Ben, en fait, c'est dur et pourtant, c'est un exercice tellement bon, en fait, sur la durée. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que, toujours pareil, se regarder dans un miroir, c'est-à-dire que quand mon enfant me raconte qu'il s'est disputé avec son meilleur copain, qu'il n'a pas pu jouer avec lui à la récré, qu'il est resté tout seul sur un banc, ça, ce que ça me fait dit quelque chose aussi sur moi. Mmh. Ça veut dire que peut-être j'ai vécu la même chose, que ça a été une grande souffrance pour moi quand j'étais petite. Et du coup, si je n'ai pas réglé ce problème-là, je vais pas pouvoir l'aider.
Mais si t'as juste de l'empathie pour ton enfant, tu te dis, oh, le pauvre, il est resté tout seul, il a pas mérité,
ouais.
Il est vilain, son copain.
Ouais, bah bien sûr, lui est parfait.
Bah bien sûr.
Il est comme moi, donc. Mais c'est un travail. On sera forcément un parent beaucoup plus aidant si on est empathique, mais qu'on souffre pas avec lui.
D'accord.
Mais évidemment, on est empathique. Mais voilà, il n'y a pas une souffrance, on n'a pas les larmes aux yeux. Moi, je me rappelle la première fois où ma fille est revenue de l'école en pleurant pour une dispute avec sa copine, mais j'étais en larmes, en fait.
Ah ouais, mais toi, t'es pire que moi, quoi.
Ah ouais. Tu crois?
Ah bah ouais.
Mais là, vraiment, j'étais en larmes.
T'as vécu la dispute, toi.
Ah ben, j'ai vécu le truc. Là, je me suis retrouvée, quand j'avais 10 ans, avec ma meilleure copine, entre guillemets, Elodie, qui m'a pourri tout le primaire.
Spéciale dédicace, Elodie.
Elodie, si tu m'entends, mais je t'ai pardonné. Voilà.
Bon, bah, ça va, donc t'as fait ton travail sur
oui,
toi.
Oui, voilà, mais c'est vrai que je me suis rendu compte, mon Dieu, là, je pleure avec ma fille, mais mon Dieu, mais ça va pas du tout. Comment je peux l'aider alors que je souffre en même temps. Donc voilà. Donc, et ça peut changer. Ça, on peut guérir quand même.
Là, tu nous encourages quand même à être vachement observateur. Hein.
Ouais.
Mais quand on est observateur, du coup, comment on peut être dans l'action aussi?
Eh bien, en vrai, là, quand dans cet exemple toujours pareil de dispute à l'école, il n'y a pas tellement besoin d'être dans l'action. En vrai, en tant que parent, on parle certainement beaucoup trop. Se taire, écouter son enfant, le regarder dans les yeux, lui laisser vraiment le temps de s'exprimer sur tout ce qu'il a vécu dans la journée. Ça, c'est un cadeau qui n'a pas de prix. Hein. Parce que, en fait, quand si ta fille, elle arrive à dire « Oui, je me suis disputée avec Elodie à la récré et tout, elle a été trop méchante, etc. » Elle dit « Mais, c'est quand même, c'est pas cool, mais tu peux pas aller jouer avec quelqu'un d'autre, on va être plus dans les solutions ou dans d'autres choses. » Et en fait, ça lui laisse pas le temps d'exprimer et de faire ressortir toute sa tristesse, sa colère ou son sentiment d'injustice. Le fait de laisser la parole et de laisser vraiment le temps à l'enfant de tout sortir, en fait, la plupart du temps, quand c'est des problèmes un peu de surface, le problème se règle tout seul juste parce qu'ils ont sorti le truc. Les parents, ils sont là, ils écoutent attentivement et ça suffit.
Bon, là, on est vraiment sur des cas de figure où c'est pas très grave.
Oui, voilà, bien sûr. Après, quand c'est des problématiques plus complexes, l'écoute, ça s'appelle l'écoute active, ça se travaille, ça c'est pas inné, sauf si tu as eu des parents qui étaient professionnels de l'écoute active, c'est des choses qui se travaillent, mais ça, on peut tout à fait s'exercer à ça. La troisième piste, c'est, alors on en reparlera un peu plus précisément la semaine prochaine parce qu'il y a tout un dossier là-dessus, c'est éviter de le harceler de questions. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais pourquoi? Et t'as
fait
quoi?
Elle t'a dit. Ouais. De pas poser de questions en plus, et c'est vrai, et t'as raison de dire faut pas les harceler de questions parce qu'ils aiment pas, en fait.
Ouais.
Quand tu leur poses trop de questions, ils veulent pas répondre.
Ouais, ça peut être vraiment contre-productif. Mmh. Voilà. Alors après, c'est des règles générales, évidemment, il y a des petites subtilités, mais voilà, les questions, attention. Mais du coup, je reviendrai dessus la prochaine
fois,
parce qu'il y a plein de choses à dire là-dessus. Alors une autre piste, c'est donc c'est ce que je reviens un peu sur cette écoute, mais parce que c'est ça qui est le plus efficace en fait, être son à son écoute sans juger de l'importance du problème. C'est-à-dire que pour nous, on va dire ben oui, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, on écoute l'histoire et on fait oh pff, bon, en fait c'est pas tellement grave. Et en fait pour l'enfant ça l'est. C'est d'une importance capitale, ça lui a pourri sa journée. Donc pour nous, ça semble pas être vraiment un problème. Pour lui, par contre, c'est pas le cas. Donc vraiment, avoir conscience que la façon dont il le vit, c'est pas la même chose que la façon dont nous, on le vit. Voilà. Et puis la dernière chose, c'est accepter qu'il n'ait pas envie d'en parler. Et ça, c'est dur.
Ouais.
Voilà, c'est dur. On pourra y revenir aussi la semaine prochaine parce que voilà, justement, quand on sent qu'un enfant n'a pas envie de parler, c'est là où le risque, c'est de le harceler de questions. Et ça, pareil, ça peut être vraiment contre-productif.
Je retiendrai ouais. quand même de, voilà, de cette petite liste que tu nous suggères en observant le comportement de son enfant. Quand il change un petit peu, toi tu disais mon fils quand il sautait ou ma fille je sais pas sur le fauteuil, c'est que il ou elle n'allait pas bien.
Ouais.
Bah voilà, j'avais déjà ma petite liste d'alerte et c'est vrai que déjà ça nous rend un petit peu plus comment dire plus éveillé en tout cas sur la façon dont son enfant fonctionne.
Ouais, mais ça on pourra en reparler dans une autre émission de comment gérer justement quand il y a une crise de colère surtout sur les plus jeunes là. Entre 2 et 7 ans, là, il y a un âge où c'est un peu chaud. Voilà, parce que alors, moi, j'en ai bavé, mais un truc costaud. Ouais,
d'accord.
Mais voilà, ça passe.
Moi, il dormait pas, mais il était sage, tu vois.
Voilà.
Ouais, comme il dormait pas, il était sage. Il claquait tout le temps. Non, il était
oui,
pas fatigué,
ça.
Non, je sais pas. Enfin, bref. Merci beaucoup, Tilda. Une nouvelle bulle de parents. Voilà, aujourd'hui, l'idée, c'était d'être, voilà, de voir un petit peu comment se comporter quand on sent que son enfant ne va pas bien. On ira un petit peu plus dans le fond des choses la semaine prochaine et on vous expliquera pourquoi il ne faut pas trop poser de questions.
Ouais.
Merci Tilda, merci à tous. On se retrouve, nous, dans un instant, juste après le top de la musique sur Radio Bulle, votre radio de la jeunesse.